Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Au nom de mes camarades, je vous souhaite la bienvenue. Le soleil et la chaleur sont de la partie et c'est toujours un plaisir. Mais le plaisir le plus grand, c'est de nous retrouver aussi nombreux dans cette ambiance fraternelle. Prendre le temps de discuter, de comprendre la situation et de chercher les moyens d'agir est d'autant plus important que le climat politique est pesant au lendemain de ces élections européennes. Pour la première fois, le Front National est arrivé en tête d'une consultation électorale. Sa progression par rapport aux précédentes européennes est incontestable. Le Front National progresse dans tous les scrutins depuis la présidentielle de 2012, où Marine Le Pen a atteint le niveau inégalé pour le Front National, avec plus de 6 millions de voix. Cette poussée continue n'est pas une surprise, mais elle n'en est pas moins dangereuse. D'autant plus que le Front National fait une percée dans les classes populaires, auprès d'ouvriers, d'employés, de chômeurs. L'influence du Front National grandit quasi mécaniquement à la faveur de la crise et du discrédit des deux partis qui se relayent au pouvoir. Mais son ascension n'est pas irrésistible. Dans les classes populaires, le Front National est le vote de travailleurs déboussolés. C'est le vote de travailleurs prêts à vendre leur âme au diable dans l'espoir que cela change quelque chose. C'est le vote de travailleurs perdus, sans perspective. Pour combattre l'influence du Front National dans la classe ouvrière, il faut redonner confiance aux travailleurs. Il faut qu'ils prennent conscience de leurs bons droits et leur redonner confiance dans leur force collective et dans leur capacité à défendre leurs intérêts. À les défendre, d'abord et avant tout, contre la politique du gouvernement entièrement dévouée au patronat. Les dirigeants du Parti socialiste déplorent une crise de confiance politique. Mais ils récoltent ce qu'ils ont semé. Hollande s'est fait élire sur la promesse de faire la guerre à la finance. Il a étouffé les travailleurs sous les impôts pour payer ces mêmes financiers. Il avait promis d'empêcher les licenciements, comme à Florange. Il a aidé les licencieurs à Peugeot, à La Redoute, chez Sanofi. Quand Sarkozy était au pouvoir, Hollande prétendait que le coût du travail n'était pas un problème. Aujourd'hui, il ne parle plus que de le réduire et ne jure plus que par les exonérations de cotisations sociales et les baisses d'impôts pour le patronat, quitte à augmenter la TVA et à faire payer les travailleurs et les plus pauvres pour compenser. Hollande a repris point par point le programme de la droite tout en continuant de lanterner les travailleurs. Depuis 2 ans, très régulièrement, Hollande prédit la reprise. On l'attend toujours. La courbe du chômage était censée s'inverser fin 2013. En 2014, grâce au pacte de responsabilité, 1 million d'emplois devaient voir le jour. Le mois dernier, il y a encore eu 11 000 chômeurs de plus. Et il faudrait lui faire confiance. Même les accros à l'astrologie ne retournent pas voir les voyantes qui les ont déçus. Alors Hollande a perdu ses adeptes. Eh bien, c'est tant mieux. Le discrédit de Hollande est si profond que même la nomination de Valls au poste de Premier ministre n'y a rien changé. Valls, qui se veut le champion de la droite du Parti socialiste et qui singe Sarkozy, se démène pourtant. Chaque semaine, il annonce quelque chose. Malgré la cure d'austérité de 50 milliards, présentée comme incontournable et indispensable, Valls veut montrer que le gouvernement a encore une marge de manœuvre. Un jour, il fait sortir de l'impôt sur le revenu 1,8 million de foyers. Le lendemain, il promet une baisse pour 3 millions de personnes. Mais il a beau jouer les fiers à bras et annoncer le tout à grand renfort de trompette, toutes ces mesures apparaissent pour ce qu'elles sont, des mesures dérisoires à comparer aux sacrifices endurés dans les classes populaires depuis trop d'années. Et ce n'est pas la réforme Taubira sur l'aménagement des peines qui redonnera du crédit au gouvernement dans ce climat de surenchère sécuritaire délétère. Quant à la réforme territoriale, elle fait déjà l'objet d'une foire d'empoigne sur le redécoupage des régions. Oh, elle promet des débats longs et folkloriques entre les coqs de régions. Mais ces débats ne porteront pas sur l'essentiel, parce que sur l'essentiel, gauche et droite sont d'accord. Il s'agit encore et toujours que l'État se désengage sur les collectivités locales sans leur donner les moyens financiers correspondants. Il s'agit de réduire le personnel des collectivités. Il s'agit de démolir les services publics. Et pour cela, ils sont tous d'accord. Alors cette réforme permettra peut-être à Hollande de laisser son nom dans l'histoire de France, mais sûrement pas de reconquérir son électorat. Les commentateurs se demandent comment Hollande pourra tenir 3 ans avec une telle impopularité. Mais pour gouverner, Hollande n'a pas besoin de crédit. Il lui suffit d'avoir le pouvoir. Tant que personne ne le conteste dans la rue, tant que les travailleurs ne réagissent pas, il continuera à attaquer main dans la main avec le patronat. Et ce n'est pas l'opposition d'opérette au sein du Parti socialiste, ni la demi-opposition constituée par le Front de gauche qui lui feront changer de politique. Ce n'est pas non plus le risque de perdre les prochaines élections. Hollande l'a montré aux municipales et aux européennes. Il est prêt à sacrifier son parti sur l'autel de sa politique pro-patronale. La politique d'austérité de Hollande n'est pas une lubie sociale libérale. Elle n'a rien à voir avec de l'aveuglement, avec un manque de courage ou d'imagination politique. Elle correspond aux intérêts de la bourgeoisie. Intérêts de la bourgeoisie qui commande, dans le marasme économique actuel, d'aggraver l'exploitation, de dégrader les conditions de travail, de baisser les salaires et de revenir sur les droits des travailleurs. Rien ne le fera changer, car Hollande fait partie de ces hommes politiques responsables, dévoués depuis toujours à la bourgeoisie. Que cela nécessite, dans cette période de crise, de s'en prendre aux travailleurs, Hollande l'assume et il en connaît le prix politique. Et il le paiera, d'autant plus cher que ce sont les ouvriers, les employés, les classes populaires qui votent traditionnellement à gauche, qui sont les principales victimes de sa politique. Ce n'est pas la première fois que les socialistes au pouvoir font le contraire de ce qu'ils avaient promis aux travailleurs pour satisfaire aux exigences de la bourgeoisie. En 1956, Guy Mollet avait fait campagne en promettant la paix en Algérie. Arrivé au pouvoir, il intensifia la guerre et envoyant le contingent se battre en Algérie. Il signait ainsi l'effondrement politique du Parti socialiste qui mit plus de 20 ans pour s'en remettre. Mitterrand, qui avait fait campagne sur la rupture avec le capitalisme, imposa à partir de 1983 le tournant de la rigueur. Eh bien, Hollande est un de ces responsables politiques-là qui ne renie rien des Guy Mollet ou des Mitterrand et qui a fait ses classes politiques dans la perspective de gérer les affaires des capitalistes, quels que soient les sacrifices à imposer aux travailleurs. Le centenaire de la guerre de 1914 nous rappelle que c'est à cette époque que le Parti socialiste, qui se revendiquait de la classe ouvrière et de la Révolution, a basculé du côté de la bourgeoisie et a trahi de la pire des façons. Mais pendant des dizaines d'années, sa base est restée ouvrière. Si le Parti socialiste était devenu un parti bourgeois par ses sommets, il comptait encore nombre de militants et de sympathisants dans la classe ouvrière, qui continuaient à véhiculer l'idéal de la transformation sociale. Aujourd'hui, le Parti socialiste est un parti bourgeois, de la tête aux pieds. Il a non seulement arrêté de dénoncer l'exploitation capitaliste, mais il combat toute référence à la lutte de classe depuis longtemps. Il ne prétend même plus représenter les intérêts des ouvriers, ni même ceux des travailleurs. Il est un parti de gauche, gauche ne signifiant plus rien d'autre qu'un parti opposé à la droite et censé prendre la relève quand celle-ci s'est trop discréditée. Eh bien, cela fait bien longtemps que rien ne rattache le parti socialiste aux travailleurs, si ce n'est le fait de courtiser leur voix à chacune des élections. Eh bien, il ne faut plus que les travailleurs se sentent liés au Parti socialiste de quelque manière que ce soit. Ce parti n'est pas de notre bord, il ne nous représente en rien. Bien que le Parti socialiste ouvre un boulevard à la droite, l'UMP est au bord de l'implosion. Et si, comme on nous l'annonce, Sarkozy fait son retour, entre lui, Copé, Fillon, Juppé et les plus jeunes aux dents longues, cela risque d'être sanglant. Les municipales ont laissé croire aux dirigeants de l'UMP qu'ils pouvaient profiter du discrédit du PS. Beaucoup de villes ont en effet été prises à la gauche. Il n'y avait pas non plus à fanfaronner. Les candidats de l'UMP ont le plus souvent été élus par défaut, en profitant de l'abstention des électeurs du Parti socialiste et sans augmenter leur propre voix. Mais pour l'UMP, les municipales étaient déjà une victoire. Les européennes, elles, ont été une autre paire de manches. Avec le Front national loin devant l'UMP, avec Alliot-Marie, Morano et Hortefeux devancés par les candidats du Front national, les européennes ont été pour l'UMP une douche froide. Et l'affaire Big Malion, le coup de grâce. Des fausses factures à hauteur de 11 millions minimum. Des soupçons sur la campagne de Sarkozy. Eh bien, les têtes n'ont pas fini de tomber à l'UMP. Et il n'est pas sûr que Sarkozy conserve la sienne. Sarkozy, qui n'aurait, comme Copé, rien vu, rien entendu, rien su. Mais il se moque du monde, et d'abord et avant tout de leurs propres troupes. Les amis de Sarkozy expliquent pour le défendre que ce dernier ne s'occupe jamais des comptes, qu'il est un fonceur et qu'il estime que l'intendance doit suivre. Eh bien, même leur justification est écœurante et elle est bien significative de ces hommes-là, habitués à être servis sur un plateau et à ce que l'on cède à tous leurs caprices. Et c'est à l'image aussi du système capitaliste, où l'intendance, comprenez, les petites mains, les ouvriers, les employés, les chômeurs doivent suivre, se débrouiller pour survivre tout en servant ces messieurs au pouvoir. Oui, c'est révélateur de ce monde de fous où une minorité nage dans les millions et les milliards et se permet de dire à tous les autres « marche ou crève ». Aujourd'hui, les dirigeants de l'UMP... Aujourd'hui, les dirigeants de l'UMP ont à s'expliquer devant la justice. Eh bien, ils n'ont, eux aussi, que ce qu'ils méritent. Quant à la réputation d'être la droite la plus bête du monde, ils ne l'ont décidément pas volée. Le discrédit du PS, auquel s'ajoute celui de son frère jumeau, l'UMP, laisse de l'espace au Front national. À la fausse alternance gauche-droite va succéder une comédie électorale à trois. Trois grands partis, comme ils disent, en concurrence pour la mangeoire, mais tous prêts à gouverner en représentant servile de la bourgeoisie. Car le Front national est un parti bourgeois, dévoué comme les autres au système, respectueux des possédants, de la propriété privée et de l'exploitation. Le FN n'a rien contre le patronat. Rien contre ses dividendes, ses profits, rien contre les bas salaires qu'il impose. Pour Marine Le Pen, ce ne sont pas les capitalistes, la concurrence et la course à l'accumulation qui sont responsables de la crise. Ce sont les étrangers, des travailleurs comme nous tous ici, qu'elle accuse de causer le chômage et la misère. Le Pen est une démagogue qui adapte son discours à ses besoins électoraux. Pour attisser le plus large possible, elle ne s'adresse plus seulement aux petits patrons réactionnaires. Elle cherche l'oreille des chômeurs, des ouvriers ou des retraités en parlant pouvoir d'achat, pension de retraite, chômage. Elle se surveille et elle use d'un discours policé. Mais elle sait que les plus réactionnaires, les plus racistes, les calotins comme les nostalgiques des colonies lui sont acquis. Et surtout, elle sait que son père s'en occupe. Le mot sordide de Jean-Marie Le Pen sur Monseigneur Ebola, qui pourrait régler en 3 mois le problème de surpopulation en Afrique, était destiné à ce public-là. Le Front national est un parti bourgeois de plus, mais un de ceux qui représentent les forces les plus réactionnaires, les plus anti-ouvrières qui soient. Le Pen père, le fondateur du Front national, est un ancien parachutiste et tortionnaire de la guerre d'Algérie, un fervent de l'OAS. Le noyau du Front national est à son image, composée d'anciens des guerres coloniales, viscéralement anticommunistes, qui perpétuent dans ce pays depuis des dizaines d'années les idées, le programme de l'extrême droite anti-ouvrière. Cette génération a fait de la place à de plus jeunes, mais elle est encore là, et c'est elle qui a formé et influencé bien des cadres et des piliers actuels du Front National. Et qu'il y ait au FN des militants du genre de cette candidate qui avait étalé sa haine raciste en comparant Taubira à une guenon et dans l'ordre des choses, car l'exemple au Front National vient d'en haut. Ceux qui ont compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de la gauche, mais qui se jettent dans les bras du FN en se disant qu'on ne l'a pas essayé, ont remplacé leurs vieilles illusions par d'autres et par les pires qui soient. Car si l'on peut se relever des illusions placées dans un Hollande, il y a le risque que l'on puisse ne pas revenir de celles mises dans le Front National. Le Front National est l'ennemi des travailleurs et il ne doit pas gagner un pouce de plus dans le monde du travail. Même si la place du Front National dans les institutions est faible, avec seulement 2 députés et 10 de municipalités, ses succès électoraux pèsent déjà sur la société et tirent la politique vers la droite. Il n'y a qu'à voir la politique du gouvernement, qui a renoncé au droit de vote des étrangers, qui poursuit les expulsions d'étrangers sans papier et dont le chef, Valls, explique que les Roms ne peuvent pas s'intégrer. Les dirigeants de l'UMP et du Parti socialiste ont rivalisé de superlatifs pour déplorer l'arrivée en tête du Front National aux européennes en parlant de catastrophes, de séismes, de tsunamis. Mais ils jouaient moins les effarouchés quand ils accommodaient la démagogie nauséabonde de Le Pen à leur sauce, que ce soit en évoquant la défense de l'identité française ou en distillant les préjugés anti-immigrés et anti-Roms. Certains s'étonnent de ce que la lutte contre l'immigration soit un peu moins l'axe de campagne de Le Pen. Mais c'est sa marque de fabrique. Et puisque l'UMP, comme le PS, se charge de nous expliquer tous les jours que l'immigration est un problème, pourquoi se fatiguerait-elle? De la droite à la gauche jusqu'au front de gauche, tous ont embouché les trompettes protectionnistes, nationalistes. Tous n'ont que le mot « patrie » à la bouche. La France et sa grandeur. Alors il ne faut pas s'étonner que les racistes se sentent confortés et ne se gênent plus pour proférer leurs horreurs à haute voix. Il ne faut pas s'étonner qu'à tout cela répondent le repli sur soi et le communautarisme, ni que dans cette atmosphère saturée de préjugés racistes, des fous de Dieu arrivent à enrôler des jeunes plus paumés les uns que les autres. Et à tout cela, il faut ajouter encore la faune que le Front National charrie dans son sillage et dont la spécialité est de se faire la main sur les immigrés, les homosexuels et les gauchistes, comme ils disent. Il y a ces groupuscules néo-nazis qui ont déjà plusieurs meurtres à leur actif. Marine Le Pen peut s'en démarquer, elle peut les renier, mais ces groupes existent. Et les succès électoraux du Front National ne font que les renforcer. Ce ne sont peut-être que des voyous, ce ne sont peut-être que des ratés, mais s'ils croient que l'opinion publique leur donne raison, ils passeront aux actes. C'est justement ce genre de voyous qui a servi de cadre au fascisme. Marine Le Pen vise, pour le moment en tout cas, à occuper la place de l'UMP et à transformer le Front National en parti de droite classique. Mais d'autres forces sont en mouvement et elles créent les conditions d'un engrenage dangereux. Un engrenage dont un des rouages essentiels est le Front National. D'ores et déjà, l'influence du Front National sur une partie du milieu populaire divise les travailleurs et les affaiblit. Aujourd'hui, ce n'est qu'en paroles, mais les paroles, ça compte. La menace va bien au-delà des travailleurs étrangers qui sont dans la situation la plus fragile. Car si Le Pen est associé au pouvoir, Elle s'en prendra peut-être d'abord aux derniers, aux derniers arrivants, en commençant peut-être par ce sans-papier. Mais ensuite, elle s'en prendra aux autres. Et une carte d'identité française ne protégera nullement les travailleurs contre un courant réactionnaire et fondamentalement opposé à toute manifestation de conscience de classe parmi les travailleurs. Alors il faut tout faire pour arracher les travailleurs à l'influence du FN. Il n'est pas trop tard. Entre un vote de protestation et une adhésion aux positions du Front National, il y a de la marge. Une marge qu'il faut mettre à profit pour discuter, pour convaincre, pour entraîner les travailleurs dans les luttes qu'ils ont à mener. Car il ne s'agit pas de faire, comme le PS ou le Front de Gauche, la morale sur le fait de bien voter ou sur les vertus qu'aurait la République, que ce soit la 5e ou la 6e. Il ne s'agit pas de construire des combinaisons politiciennes censées servir de rempart électoral au Front National. Ces manœuvres politiciennes et électoralistes sont puériles au moment même où un nombre croissant d'électeurs a compris tout ce qu'elles avaient de mensonger et d'illusoire. Il faut opposer au Front National des perspectives qui sont propres aux travailleurs, la défense de leurs intérêts sur la base des moyens qui leur sont propres, les luttes collectives et conscientes. Il faut dire et redire que nous ne sommes pas condamnés à nous sacrifier, que nos exigences sont mille fois légitimes et que la situation est une question de rapport de force qui dépend surtout de nous, des travailleurs, de ce que nous avons dans la tête, de la force que nous sommes capables d'opposer au patronat, de notre combativité. Il faut retrouver le chemin de la lutte de classe. C'est notre devoir, à nous, révolutionnaires. Mais ce travail militant peut rassembler au-delà de nos rangs tous ceux déçus de la gauche et qui ont compris que s'il n'y a pas de réaction du côté du monde du travail, nous sommes dans une impasse. Si des milliers de militants ouvriers, notamment ceux qui militent dans les syndicats, avaient ce type de démarche, allaient au contact de leurs collègues électeurs du Front National, discuter, leur expliquer la situation, les entraîner à réagir collectivement, cela compterait. Ensemble, nous pouvons regagner une partie de la classe ouvrière au combat qui lui est propre, mais cela suppose être soi-même convaincu de la capacité des travailleurs et de leur faire confiance. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont failli à leur tâche, ce sont les directions des partis qui prétendaient représenter les intérêts des exploités. Les travailleurs, eux, ils n'ont pas cessé de se battre, comme ils pouvaient, avec les militants qui restaient. Et si l'on veut sortir de l'impasse à laquelle nous acculent les directions du PS, du PC ou du Parti de gauche, il faut montrer qu'il y a des militants qui ne se résignent pas, qu'il y a des militants qui, à l'opposé du Front National, veulent changer la société, qui ne veulent pas faire tourner la roue de l'histoire en arrière, mais qu'ils veulent qu'elle reparte de l'avant. Si le dégoût de la politique, le sentiment de trahison et la démoralisation ont pris le dessus, il en est de la responsabilité de la gauche, du Parti socialiste, mais aussi et surtout du Parti communiste, car c'est lui qui avait l'influence sur les milieux ouvriers. Après le PS, le Parti communiste lui-même a abandonné toute perspective de renverser la bourgeoisie. Il s'est intégré à la société pourrie du capitalisme et il en a assumé le pouvoir. Chaque participation du PC au pouvoir a érodé un peu plus son crédit dans la classe ouvrière. La direction du Parti communiste a usé et abusé du crédit de ses militants, car ce sont les militants du PC qui ont dû expliquer auprès de leurs camarades de travail qu'il fallait attendre pour des augmentations de salaire, attendre pour des créations d'emplois, et surtout ne pas faire grève pour ne pas gêner le gouvernement auquel le Parti communiste participait.
Ce sont encore eux qui ont dû justifier les privatisations de Guesso sous Jospin, alors que toute leur vie, ils avaient combattu les privatisations. Combien ont été écœurés de voir qu'une fois au pouvoir, leur propre parti leur tenait le même discours que la droite ? Combien de militants du PCF ont raccroché après l'expérience Mitterrand, puis celle de Jospin ? La résignation qui pèse tant aujourd'hui a été prêchée pendant toutes les années où le Parti communiste a participé au pouvoir. Et il en va de même des illusions électoralistes. Aujourd'hui, ces illusions électoralistes tournent au profit du FN, le seul parti capable de se présenter comme le sauveur, puisqu'étant le seul à ne pas s'être usé au pouvoir. Quant aux militants du Parti communiste qui voulaient changer la société et qui auraient pu aujourd'hui faire contrepoids au Front National et au risque de réaction qu'ils représentent pour toute la société, eh bien, ils ne sont plus là. Eh bien, il faut reconstruire. Reconstruire sans faire les mêmes erreurs, sans retomber dans les mêmes illusions. Ce n'est pas d'un énième parti de gauche dont les travailleurs ont besoin, mais d'un parti ouvrier qui parte du point de vue et des intérêts des travailleurs pour qu'à l'opposé du Front National, il existe un parti ouvrier révolutionnaire. Un parti qui ne dise pas aux travailleurs « Votez pour nous et nous ferons le reste ». Un parti qui milite pour que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même malgré toutes les trahisons subies. Pour qu'il renoue avec les valeurs du mouvement ouvrier, à commencer par la fierté d'être travailleur. Dans cette société qui mesure la valeur d'un être humain à l'épaisseur de son portefeuille, à la cylindrée de sa voiture ou au standing de sa maison, tout est fait pour rabaisser l'ouvrier, l'employé, le facteur, l'infirmière, l'enseignant. Les valeurs et la société dont sont porteurs les travailleurs sont aux antipodes de cela. La situation ne leur permet peut-être pas d'inverser pour l'instant le rapport de force, mais les travailleurs doivent marcher la tête haute et affirmer leur fierté de tout produire, de soigner, d'éduquer, de permettre à tous de circuler, de se nourrir. Et encore une fois, leurs exigences sont légitimes. Oui, les intermittents du spectacle ont raison de ne pas se laisser faire les poches. Les ouvriers des magasins Lidl ont eu raison de faire grève vendredi contre la dégradation de leurs conditions de travail et contre le travail du dimanche. Et les cheminots qui se préparent au mouvement de grève qui démarre mardi ont raison, eux aussi, de ne pas accepter les sous-effectifs et le recul de leurs conditions de travail. À tous, je leur souhaite du succès dans leur lutte. Ils ont trouvé la force pour faire valoir leurs droits et ils peuvent servir d'exemple à tous ceux qui n'acceptent pas leur situation et cherchent les moyens d'agir. Oui, il faut affirmer que nous sommes mille fois plus utiles que tous ces parasites qui nous font la leçon. Il faut nous unir, nous rassembler dans un parti pour faire entendre nos droits. Un parti ouvrier révolutionnaire n'est pas utile seulement en temps de révolution. Il l'est dans les combats quotidiens d'aujourd'hui, les petits et les grands. Il l'est même quand il n'y a que le seul combat de la parole à mettre à apporter. Et il est aujourd'hui pour arracher les travailleurs que l'on peut à l'influence du Front National et pour montrer qu'aux antipodes des idées du FN, il y a un parti ouvrier qui veut s'opposer non seulement à tous les politiciens, mais qui a pour perspective la fin de l'exploitation et l'émancipation des travailleurs. Un parti qui permettra aux travailleurs, lorsqu'ils se lèveront et contesteront la société, d'aller aussi loin qu'ils le décideront, car ce parti, contrairement aux autres, n'a pas de fil à la patte, pas de carriériste, n'est en rien lié à ce système, car il ne rassemble que des travailleurs dont le sort est lié et qui n'ont rien à perdre au renversement de la société. Un parti de femmes et d'hommes qui ont d'abord et avant tout confiance dans la classe ouvrière et dans sa capacité à changer les choses. Cela paraît ambitieux comme perspective. Quand on sait à quel point le courant ouvrier communiste est minoritaire aujourd'hui, et à quel point le réformisme social-démocrate puis le stalinisme ont laissé un champ de ruines dans les consciences, à quel point aussi les travailleurs ont justement perdu confiance dans leurs forces. Mais cela reviendra. Bien d'autres que nous ne supportent pas l'arrogance d'un Gattaz ou les provocations patronales et gouvernementales. Et tôt ou tard, tous ces gens-là feront déborder le vase. Et dans l'action collective, la confiance et la conscience de notre force reviendront. Mais il nous revient d'œuvrer dès aujourd'hui au réveil de la classe ouvrière, en affirmant des objectifs, un programme de lutte qui change la vie. Et je tiens à dire aux jeunes, préoccupés à juste titre par le tour de plus en plus réactionnaire que prend la société, de prendre part à ce combat, qui n'est pas seulement un combat pour l'émancipation de la classe ouvrière, mais un combat pour libérer la société de l'arriération. Les préjugés nationalistes, racistes, comme les idées rétrogrades, par exemple sur la place des femmes dans la société ou sur le sens de la vie, ne disparaîtront que si la société se transforme en profondeur, que si l'exploitation laisse place à une société libre où chacun prendra part à la vie sociale tout en décidant et en choisissant, en choisissant sa propre vie, que si la société prend un cours humain. Réaliser cela ne dépend d'aucune élection, d'aucun combat électoral, ni même d'aucune manifestation destinée à combattre le FN. Mais cela dépend du combat des travailleurs, car ils forment la seule classe révolutionnaire, la seule force sociale qui n'a rien à perdre à la révolution et la seule force capable de fonder une autre société. Les révolutionnaires de la classe ouvrière, Marx, Lénine, Trotsky, n'étaient pas seulement révoltés par l'exploitation capitaliste. Ils combattaient tout ce qui rabaissait l'homme, les rois, l'Église, les conservatismes et les préjugés de toutes sortes. Par vocation, les partis révolutionnaires ont toujours été les représentants du progrès, faisant confiance au progrès technique et scientifique, mais aussi aux progrès sociaux et aux progrès humains. Votre jeune âge fait que vous êtes tourné vers l'avenir, alors n'acceptez pas tous ceux qui veulent vous ramener en arrière, choisissez le parti de la révolution. Et chacun peut prendre part à ce combat, en tout cas à sa préparation, ne serait-ce que dans les têtes. Nous sommes une petite organisation, bien sûr, mais nos camarades qui défendent nos idées depuis des décennies, les camarades ouvriers qui militent dans les entreprises, dans les quartiers populaires, ont pu démontrer la continuité de leur engagement et la force de leurs convictions. Et ils seront encore là demain, pour continuer de transmettre à d'autres les idées et les pratiques dont ils sont porteurs. Mais ces camarades ont besoin de tous ceux qui, à l'occasion des municipales et des européennes, nous ont rejoints et partagent ces idées. Car chacun d'entre nous constitue un relais indispensable pour diffuser ces idées dans les entreprises, dans les quartiers populaires et dans la jeunesse. Mais pour les heures qui viennent, profitons de la fête et de sa fraternité. Cette fraternité qui vient de la conviction commune que l'ordre économique actuel, injuste et oppresseur, doit être combattu jusqu'à son renversement.